Il est 19h sur Radio Campus Paris et vous êtes bien branchés sur Radio Camping. Ce soir, comme souvent, les studios sortent prendre l'air à défaut de chaleur. On vous fait voyager les oreilles. Nous étions il y a quelques temps au Petit Bain, hier au Point Éphémère et ce soir, nous sommes en direct de la galerie Tadeusz Ropak à Pantin à l'occasion de la 67e édition de Jeunes Créations. Mais Jeunes Créations, qu'est-ce donc, me direz-vous? Une très grande exposition annuelle avec de jeunes artistes, certes, mais encore. Qui sont donc les artistes qui y exposent? Comment cette association, qui existe depuis 1949, est-elle parvenue à se renouveler, étant aujourd'hui un des événements incontournables, comme chaque année, de la scène artistique contemporaine? Et cette radiographie de la jeune création entre performances, films, sculptures, de taille variée, environnement, dispositifs en tout genre, à quoi ressemble-t-elle? Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour vous proposer un petit tour d'horizon de la question. Être un jeune artiste, quels enjeux, quelles difficultés? Entre la création de réseau, la construction de sa propre identité et la découverte de la pluralité des possibilités, la cartographie du monde de l'art est pour le moins sibylline. Si la question peut prendre des allures de sujet de partiel en médiation culturelle, elle n'en relève pas moins les enjeux fondamentaux. Alors c'est parti. Radio Camping Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris. Et donc pour cette émission spéciale Jeunes Créations, nous sommes très nombreux autour de cette table. Tout d'abord, Carmen Blin, coordinatrice de l'exposition. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également pléthore d'artistes Guillaume Guéhanin, Margot Pietri, Thomas Labouig, Clara Citron, Quentin Spohn et Audrey Glaise. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, une première question qui sera pour vous, Carmen Blin. Jeunes Créations, c'est donc une association, une exposition annuelle. Comment est-ce que vous définiriez Jeunes Créations en quelques mots, finalement?
En quelques mots, c'est pas si facile. En fait, Jeunes Créations, donc comme vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est un collectif d'artistes qui organise donc cette grande exposition annuelle depuis 1949. Donc, on en est à la 67e édition. Pour situer un petit peu, donc c'est une exposition qui est intégrée par des artistes qui sont en fait sélectionnés par des artistes ayant précédemment déjà exposé dans le cadre de cette exposition. Aujourd'hui, l'association, ce n'est plus seulement cette grande exposition annuelle, c'est également une galerie qui se situe sur le site des Grands Voisins. Ce sont des expositions hors les murs et donc c'est un petit peu comme ça un laboratoire pour les pratiques artistiques les plus actuelles sous toutes leurs formes.
Et pour vous, les artistes, je vais vous appeler comme ça, les artistes, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir venir exposer ici à Jeunes Créations? Qu'est-ce que Jeunes Créations représente pour vous finalement? Pourquoi être ici? Qui veut commencer? Clara Citron.
Qu'est-ce que ça représente? Je pense que... Déjà, Jeunes Créations, c'est de la visibilité, je pense, pour des jeunes artistes. Et c'est pas facile de sortir d'école d'art et de pouvoir montrer son travail. C'est aussi c'est un gage de qualité parce que c'est sur dossier, c'est un concours et c'est exposé dans des très beaux espaces, c'est rencontrer de nouveaux artistes, voilà, c'est un peu tout ça.
Cette rencontre, elle s'est faite pour certains d'entre vous, vous êtes réunis dans certains espaces, vos œuvres se confrontent les unes les autres, est-ce qu'il y a eu justement des rencontres, des convergences, des confrontations qui ont eu lieu entre vos œuvres et vos pratiques respectives? Guillaume Guéhanin.
Je pense que c'est ici, là, à Tadeusz Ropak, dans cette galerie, oui, effectivement, c'est un endroit où toutes les œuvres se retrouvent ensemble, communiquent, il y a une scénographie qui est là, et donc on a tous les médiums qui apparaissent, aussi bien la photo, le dessin, la peinture, la vidéo et même la performance, puisqu'il y a eu trois journées décernées à la performance. Et je pense que donc c'est 53 artistes qui sont là pour montrer leur travail dans un lieu comme celui-là, avec un espace, avec tout ce qui peut s'y passer. C'est une manière de mettre en relation les œuvres, mais aussi de faire en sorte que les artistes fassent côtoyer leur univers, et puis aussi qu'ils se rencontrent entre eux, et puis Donc il y a plein de choses qui se passent sur ce temps-là, quoi.
Alors vous parlez de confrontation d'univers, et justement votre voisin de table était également votre voisin d'exposition, Thomas Labouygues. Alors peut-être que vous pourriez nous parler, vous, de comment vous avez vécu cette confrontation avec les autres œuvres, avec les artistes voisins, finalement tous. Comment est-ce que vous avez vécu ces recoupements, la scénographie et le fait notamment d'un des scénographes comme Kevin Cadino, mais il y en a eu, je crois, d'autres.
Jérôme Souliol, en fait, ils étaient deux, ouais, Kevin Cadino et Jérôme Souliol qui ont créé cette scénographie, moi, juste pour faire une digression, mais en fait, la scénographie s'est épurée au fil et à mesure des années pour vraiment laisser plus de place à l'expression des artistes. On a essayé de casser complètement cet effet un petit peu de boxe pour chaque pratique, chaque artiste qui serait un peu cloisonné.
Mais est-ce que coup,
je te laisse répondre, Thomas.
Encore une nouvelle digression, est-ce que ce serait pas une des distinctions de Jeune Création avec Montrouge, à savoir l'absence de commissaire principal?
Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que ça fait déjà de nombreuses années que Jeune Création ne se décrit plus comme un salon. On essaye vraiment d'aller vers dans nos actes et dans nos choix et dans nos manières de monter cette exposition vers une exposition et non pas un salon qui serait comme un catalogue comme ça d'artistes. Et je pense que oui, la scénographie participe complètement. En tout cas, c'est la partie la plus visible de cette démarche.
Alors nous y revenons, Thomas Labouygues. Cette confrontation avec Guillaume Guénin, entre autres, mais aussi tous les autres artistes, comment vous avez vécu ça?
Alors, ce qui était très intéressant au départ, c'est qu'il y a une sorte de pacte, en fait, qui se passe au moment où on participe à Jeune Création, puisque on va être confronté à des gens qu'on ne connaît pas, on fait une exposition collective très conséquente, on ne sait pas forcément comment on va présenter notre travail, qu'est-ce qu'on va présenter, quels vont être nos voisins. Donc, il y a une grande confiance qu'on va donner, nous, par rapport aux scénographes. D'ailleurs, je les en remercie pour cette version cette année parce que effectivement, on n'est pas dans des box et c'est super agréable parce qu'il y a vraiment ce format d'exposition qui est visible, quoi. Une vraie exposition collective, malgré le nombre, parce qu'on est assez conséquent, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc cette première...
Pardon. Justement, pour rebondir, j'ai trouvé que c'était extrêmement fluide, et même entre nous, parce qu'il y avait quand même le confort logistique qui privilégiait justement une sorte d'entente. Et dans le confort logistique, il y a l'espace, hein, parce qu'on avait clairement l'espace autour de nous, mais on avait aussi une organisation, un timing qui faisait qu'on n'a pas eu à souffrir, je trouve, d'un problème comme ça qui aurait pu générer trop de confrontations dans le mauvais sens. Et là, les seules confrontations qu'il y a eu, peut-être c'était les confrontations au niveau du son, mais parce que voilà, les vidéos sont dans des box, moi j'ai une vidéo qui tourne dans l'installation qui parfois, oui, on peut baisser pour les temps de performance, mais j'ai trouvé ça super fluide et très, oui, très confortable pour nous. Et ça laissait vraiment la voie libre pour pouvoir se rencontrer et être quand même dans le plaisir d'être là, de montrer ce qu'on fait et de voir de nouvelles têtes aussi. Voilà.
Quentin Spohn ?
En fait, moi, j'avais fait le Salon Montrouge il y a 3 ans et c'est vrai que je trouve vraiment, enfin, j'étais assez content de cette expérience, mais malgré tout, en fait, je trouve que c'est, enfin, l'expérience de Jeune Création est beaucoup plus enrichissante et voilà, vraiment très plaisante du fait que justement on voit vraiment des œuvres, quoi. On a la possibilité de voir vraiment on découvre des jeunes artistes à travers des œuvres. Et disons que quand j'étais au Salon Montrouge, on avait plutôt effectivement une impression plutôt de catalogue, et l'expérience en elle-même était pour le coup que ça soit le vernissage ou après, en fait ça se prêtait même moins, je dirais, aux rencontres entre les artistes. Pardon.
Alors avec, vous me tendez la perche avec cette notion de catalogue, parce qu'il y a une autre spécificité, voilà, c'est qu'il y a un catalogue, mais voilà, des textes de jeunes critiques qui aussi sont de jeunes qui s'exercent au travail de la critique d'art. Qu'est-ce que ça a été d'abord, pourquoi ce choix de mobiliser des jeunes critiques d'art pour Jeune Création, et pour vous les artistes, qu'est-ce que ça vous a fait de vous confronter peut-être parfois pour la première fois au regard d'un critique sur votre travail, Carmen Blanc?
En fait, ce choix, c'est vraiment en lien avec l'ADN de Jeune Création. C'est cette idée d'être un petit peu un catalyseur et un espace de rencontre, un espace pour justement aller plus loin dans sa pratique, aller plus loin dans ses recherches. Et donc c'était naturel pour nous d'aller vers les étudiants donc de Paris 1 et Paris 8 qui sont venus rencontrer les artistes et rédiger ces notices. C'est vraiment de leur donner un espace qui soit un espace réel. C'est pas un exercice pour la fac, c'est pas un exercice que seul un prof va lire et dont on va parler peut-être dans un TD avec quelques camarades autour. Là, c'est un texte qui va être lu par potentiellement des milliers de lecteurs. On l'a tiré à 4000 exemplaires quand même, c'est pas rien. Et du coup, c'est vraiment les mettre dans une expérience du réel, en fait.
Et pour vous, par exemple, peut-être Margot Pietri, peut-être vous pourriez me dire qu'est-ce que ça a été pour vous la confrontation au travail du critique et à ce texte.
C'était plutôt une rencontre, à vrai dire, parce que les critiques dont on parle là ont à peu près le même âge que nous. Et disons que c'était une rencontre aussi assez difficile parce qu'ils ne choisissaient pas forcément directement l'artiste. Mais en même temps, c'était assez chouette de pouvoir partager à un moment donné son travail et d'essayer de l'expliquer, parce que c'est un premier pas aussi de médiation vers le public.
Et pour les autres, est-ce que vous avez eu des impressions spécifiques dans cette confrontation avec le travail du critique? Est-ce que vous en avez été surpris, déçu, étonné ou dans l'indifférence totale peut-être? Est-ce que c'était fondamental pour vous ou est-ce que c'est vraiment pas l'aspect le principal quand vous exposez ici à Jeune Création comme étape peut-être de professionnalisation?
Je pense que c'est super important et le texte là il reste dans le catalogue qui reste un peu comme une sorte d'annuaire qui fait trace et c'est sûr que pour moi c'était quand même important que le texte soit satisfaisant et pour moi et pour la personne qui le rédigeait. Et après, moi, je trouvais ça super que justement ce soit des critiques un peu en devenir et qu'on se prête à l'exercice en fait, qu'on se dise ok, on se retrouve, on va boire un café et je vais essayer, comme le dit Margot, d'expliquer vraiment sincèrement ce que j'ai fait, même si c'était des mois à l'avance et que c'était difficile de savoir exactement comment ça allait prendre place dans le lieu et si ça allait bien correspondre vraiment. Enfin, moi, je suis beaucoup dans le process, du coup, qui est quand même une fidélité. On a réussi à trouver un terrain d'entente et si ça avait pas été le cas, je pense que j'aurais quand même eu cette sorte d'indulgence de toute façon, dans le sens où je valide et je suis absolument pour le fait que ce soit un tremplin aussi pour ces critiques en devenir et que c'est oui que c'est un exercice qui est pas aisé de pouvoir synthétiser en si peu de lignes la démarche de quelqu'un.
Guillaume Ganin, vous vouliez rebondir?
Oui, c'est pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit par rapport au travail du texte et de la rencontre avec un critique. C'est ça, on se retrouve à avoir un rendez-vous et puis avec quelqu'un qui a découvert le travail de l'artiste il y a très peu de temps, il y a peut-être 2-3 semaines, un mois. Et puis cette personne, on la rencontre et puis on discute. Et il y a plein d'idées qui sont émises des deux côtés, des deux parties. Et donc dans cette rencontre, il y a aussi plein de questionnements qui foisonnent. Il y a plein de nouveaux propos, de nouveaux avis. Et dans toutes ces remises en question, en fait, ça donne lieu à après coup, après le rendez-vous, à des questions sous-jacentes et sur son propre travail et puis c'est aussi la découverte de métier quoi, critique, le fait qu'il y ait des personnes qui écrivent des textes, qui passent beaucoup de temps dans leur vie à regarder les travaux des artistes, donc tout ça fait que effectivement en amont comme ça de Jeune Création, on se retrouve dans une situation où c'est des préparatifs, c'est préparatoire et puis il y a c'est intéressant. Voilà.
Alors il y a une composante encore dans toute cette dynamique entre curating, construction de l'exposition, critique qu'on peut encore évoquer, c'est
le public, évidemment, puisqu'on est ici ben, dans une galerie publique qui est ouverte du matin au soir, presque tous les jours de la semaine, et ça se termine, je crois, demain. Ben, peut-être qu'on pourrait dire quelques mots voilà, de vous, quel a été votre rapport au public. Je crois que vous étiez nombreux à être là très fréquemment. Vous étiez là d'aujourd'hui très tôt, et vous êtes, je crois, avide de pouvoir, évidemment, parler de votre travail avec les spectateurs qui sont là. Certains sont avertis, d'autres passent ici complètement par hasard et ne savent même pas que ce lieu est une galerie. Donc comment s'est passée pour vous cette interaction avec un public, avec des publics peut-être très différents? Ça a été un beau moment, ou parfois l'enfer, de parler avec des spectateurs qui auraient des réflexions peut-être peu agréables? Enfin, comment ça s'est passé, Thomas Labouygues?
Alors pour ma part, j'ai pas eu de problème, on va dire, puisque je vais pas essayer d'accrocher trop les gens, donc je les laisse déjà regarder par eux-mêmes.
On laisse couler.
Exactement, et puis j'intervenais juste quand je voyais que quelqu'un voulait peut-être des informations. J'avais aussi mis tout un document, puisque mon système a beaucoup d'éléments, donc voilà, c'était... une petite liste pour aider à rentrer dans le travail. Et puis tous les échanges que j'ai eus, en tout cas pour moi, étaient très très intéressants. Après, j'ai aussi une petite habitude, parce qu'on a, moi je viens de Strasbourg, et en Alsace on a aussi un événement qui s'appelle les ateliers ouverts. Donc voilà, un espace où pendant un temps on va accueillir 3000 personnes dans nos ateliers, et on va être confronté du coup à différents publics. Donc c'est un exercice que j'étais amené à faire chaque année. Donc voilà, là je l'ai refait dans un autre lieu que je ne connaissais pas d'ailleurs en plus. Donc j'ai découvert aussi donc Repac cette année, et c'était un très bon moment. Voilà.
Quand on spawn
En fait, il y a, par rapport à Pantin, en fait, par rapport à la galerie de Thaddeus Ropack, il faut quand même s'y rendre. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent ici, qui connaissent déjà bien le lieu, qui ont déjà vu des expos. C'est toujours très, très plaisant d'avoir la possibilité de discuter autour de son travail, aussi à différents publics. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours tendance à je ne peux pas m'empêcher de dire des conneries, c'est irrépressible chez moi. Donc,
c'est toujours très nécessaire.
À chaque fois, je rajoute une petite anecdote. En fait, on fait soi-même sa médiation, donc on peut raconter un petit peu ce qu'on veut aussi autour de son travail. Et personnellement, voilà, moi, je trouvais que c'était une expérience qui était bien plaisante. Enfin, voilà, c'était vraiment plaisant, très plaisant. Mais c'était difficile des fois de m'empêcher de dire des conneries, quoi. Voilà.
Margot Pietri.
En fait, le programme de Jeunes Créations sur les deux semaines permettait de favoriser toutes les rencontres possibles, que ce soit entre les artistes ou avec le public, parce que pratiquement tous les jours il y avait un nouvel événement, et du coup on pouvait à peu près venir à n'importe quel moment, et si on voulait rencontrer des personnes différentes. Après, pour ma part, je vais rarement à la rencontre directe avec quelqu'un. Je considère qu'il faut regarder une pièce un peu avec ses yeux, son expérience, et qu'on n'a pas toujours besoin d'accoler un discours, ou que l'artiste n'a pas toujours besoin, parce que souvent c'est pas le meilleur d'ailleurs pour expliquer ce qu'il fait, donc que c'est bien aussi de laisser respirer et d'accepter qu'une exposition est là aussi pour être un moment de repos pour les pièces et aussi pour les artistes.
Alors, un dernier mot peut-être qu'on pourrait dire dans ce premier grand tour d'horizon Jeunes Créations, c'est la multiplicité des événements qui ont été mis en place, peut-être non pas en marge, mais en parallèle de l'exposition. Il y avait notamment une summer school avec une intervention de Yes Weekend. Il y avait des performances, il y avait voilà, une multiplicité d'événements. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place, et quels étaient finalement les objectifs de cette multiplicité d'événements qui ont accompagné l'exposition de tout son long? Carmen Blin.
Il y a plusieurs choses. Déjà, la performance, pour nous, c'était très important. Je pense c'était un besoin qui était ressenti depuis plusieurs années par les artistes qui participaient à l'exposition, de dire que dans la plupart des salons ou des grandes expositions collectives, c'est difficile de trouver un temps pour présenter la performance. Ça fait déjà 5 ans que la Fondation d'entreprise Ricard présente Partition Performance dans le cadre de Jeunes Créations. Et on a vraiment voulu cette année, au-delà des programmes de performance qui étaient mis en place par Rémi Ucheda et la Fondation Ricard depuis plusieurs années, proposer aux artistes de la 67e de faire une performance lors de l'édition.
Et on a été agréablement surpris, et non pas surpris parce qu'on le sentait, mais donc il y a 5 artistes, dont 2 qui sont autour de la table, qui ont répondu présent. Je pense que ça a été un beau moment d'échange. Donc ça, déjà, c'était vraiment pour mettre en valeur le médium de la performance, et ensuite que tous les événements sont vraiment pensés pour pouvoir mettre en relation donc les artistes et le public, et les artistes avec des professionnels du monde de l'art. Donc comme tu le disais hier, il y avait les universités de la jeune création. C'était tant un temps pour le public que pour les artistes pour parler justement de problématiques qui leur sont propres. Comment trouver un atelier dans la ville, comment trouver sa place pour créer, pour exposer. Qu'est-ce que c'est qu'une scénographie pensée par des artistes? C'est important quand on sait que dans l'édition, justement, ce sont des artistes qui pensent la scénographie, que tout le monde est membre de l'association, bénévole. Donc c'est des questions qu'on avait envie de d'amener. Et donc voilà, ces événements sont pas en parallèle. C'est vraiment pensé comme des supports à ce temps de rencontre et d'échange qui est l'exposition, en fait.
Donc il y a eu pour vous justement des moments d'apprentissage grâce à ces multiples événements. Est-ce que Jeune Création a été, outre l'exposition en elle-même, un moment de mise en réseau, d'apprentissage, de découverte de possibilités que vous n'auriez pas connues en amont? Margot Pietri.
Évidemment, parce qu'il y a un large public de professionnels qui passent durant l'exposition, et notamment la première journée avant le vernissage, pendant la journée des professionnels, et qui est vraiment un moment axé sur la rencontre avec les artistes et le réseau. Et en même temps, en plus de ça, Jeune Création, c'est vraiment une exposition laboratoire, à mon sens, où effectivement chaque moment est là aussi pour parler de qu'est-ce que c'est d'être un jeune artiste, comment exposer, toutes les contraintes, les possibilités, et aussi les futurs que ça amène.
Alors justement, être un jeune artiste, c'est quelque chose que vous avez tous en commun. Et donc ici, Jeune Création, c'est aussi le moment d'en parler. Quelle serait, c'est une question facile, mais quelle est la principale difficulté que vous rencontrez au quotidien dans votre vie de jeune artiste? Jeune Création constitue un événement tout à fait festif, joyeux et agréable, mais peut-être que c'est l'occasion aussi, j'imagine, pour vous de partager vos expériences et de partager vos difficultés. S'il fallait en nommer une principale, voilà, difficulté qui est la vôtre au quotidien, laquelle ce serait Thomas Labouy, que je sens que vous êtes...
Je voulais dire autre chose, en fait, mais c'est pas grave.
Allez-y.
Non, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'était ce rapport de famille, en fait, où des gens qui ont réalisé l'exposition, la scénographie, la sélection, etc., sont toujours des jeunes artistes et continuent à passer le flambeau au nouveau. Et nous, on va faire la même chose. Donc, on a la possibilité, nous, de s'intégrer ensuite dans l'association et de participer pour la version qui aura lieu l'an prochain. Et pour moi, je trouve, ça rejoint aussi cette question sur la difficulté, que finalement, les artistes seuls, c'est un peu compliqué, en tout cas pour ma part. Je travaille beaucoup en collaboration, je fais partie d'un collectif d'artistes PESCORP, où il y a d'autres
avec,
représentants.
Je crois, Audrey Glaise qui est là.
Et je viens aussi d'une formation où on nous a vraiment poussé à nous entraîner ensemble et d'être une génération, en fait, de front face à ce monde, et voilà, créer des contacts, créer des connexions, fabriquer des expériences, des expositions de différents types, en galerie, en institution, ailleurs. Et je pense que pour moi c'est ça le plus important, en tout cas l'enjeu pour moi aujourd'hui c'est ça, c'est continuer avec ces familles. Voilà.
Audrey Glaise, justement, ce collectif PESCORP, qu'est-ce que ça implique pour vous? Pourquoi avoir fait ce choix de la pratique collaborative et de la mise en réseau, justement?
Nous, ça s'est vraiment posé comme une évidence quand on est sorti pour la majorité de notre collectif des arts décoratifs de Strasbourg. Et très tôt, on a été évidemment confronté à la dureté, à la difficulté économique.
On l'imagine facilement.
On va dire que ça a été pour nous une façon de pouvoir cumuler un peu, mettre en mutualisation ce qu'on savait faire et les réseaux qu'on pouvait avoir, et avoir une force de frappe un peu, d'arriver comme ça, de créer des dispositifs un petit peu, parfois clairement monumentaux, et oui, de survivre en fait, de s'épauler, d'être dans un rapport où on n'est pas tous à chaque fois 11 à faire un projet, mais de pouvoir faire croquer, comme on dit, entre nous. Et là, bon, dans le cadre de Jeune Création, certains d'entre nous vivent certainement mieux que d'autres, ou sont déjà en galerie ou dans un réseau un peu plus poussé.
Jeune Création, il n'y a pas de galerie. Hein.
Allez, la gueulante.
Alors, je crois qu'un autre membre de ce collectif, Pescorp, vient de surgir de derrière vous. Félix Ramon, qui a attendu le moment opportun pour dire quelque chose.
Non, j'ai pas grand-chose à dire. Si, peut-être je peux rajouter que... Parce que j'essaie de réfléchir un peu plus globalement à qu'est-ce que c'est, justement, pour nous. Il y a plein de situations différentes. Mais c'est vrai que je pense... J'ai quand même cette image... parce que être artiste, c'est un peu un fantasme comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression dans ma vie de tous les jours, si je me poussais pas justement à penser comme ça au groupe, à être dans un collectif, à aller vers les autres, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose, il y a un sentiment de la communication, elle est difficile. La communication de parler de après l'école, après les années d'études. De continuer à se dire, ok, là, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que je fais et discuter de ça avec d'autres gens, et ben c'est très très difficile parce que on est des humains et les humains, bah, dans la vie normale, et ben quand ils se voient, ben, ils boivent des coups, ils vont essayer de s'amuser un peu. Non, mais c'est vrai, et on est dans une sorte de y a toujours on est attiré vers un truc de normalisation et je pense que vraiment on a une de quoi.
On le banalise
exactement, et c'est vrai que je pense faut toujours, on essaie de se remettre en question en permanence et c'est vrai que le collectif pour le coup moi est très important quoi pour ça.
Audrey Glaise, vous vouliez rebondir.
Il faut s'ouvrir même, c'est je pense que j'ai envie de, il y a des discussions que j'ai envie d'avoir avec les autres artistes de Jeune Création. Je les ai pas obligatoirement encore eu, mais je pense que ce qui est intéressant avec Jeune Création, c'est qu'il y a ce temps-là d'exposition où on est très centré quand même sur l'exposition, mais il y a le temps là, toute l'année après, où il y a un grand temps où je sais que parce que je connais un peu les gens de Jeune Création, il y a une dynamique de continuer à faire des expositions ensemble et de passer du temps ensemble et donc de rencontrer d'autres gens et ça je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que là on est dans la première phase et que pour tous les artistes qui vont continuer à suivre Jeune Création, je pense que c'est assez intéressant. Quoi. Il y a quelque chose de partage qui est intéressant.
Clara Citron, vous vouliez...
Oui, c'est aussi pour préparer l'exposition. Finalement, on était seuls à penser notre pièce. Et une fois qu'on l'a exposée, en fait, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est exactement ce que tu disais, c'est l'après. Quelles sont les portes qui vont être ouvertes, refermées, quels sont les gens qu'on va rencontrer. Et pour moi, d'être dans un collectif ou pas, c'est pas tellement l'important. Enfin, il n'y a pas de règles. C'est juste de pouvoir, dans notre travail, sortir un peu la tête de sa propre merde, en fait. On l'a tous les jours, on est là face à nos trucs. Et de pouvoir en parler avec d'autres gens, des gens qui font des choses diamétralement opposé à ce que tu fais et qui vont te dire ah bah tiens regarde ça nanani nanana, c'est un peu continuer en fait, si on a fait ou pas une école d'art, un peu continuer les discussions qu'on pouvait avoir avec des bons professeurs et en fait les continuer dans la vie en général avec d'autres artistes ou pas d'autres artistes, et c'est juste normal je pense.
Finalement la sortie d'école n'a été comme peut-être un saut dans le vide pour vous, est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou est-ce que vous étiez déjà préparé pendant l'école à ce qui allait se passer juste après et vous saviez déjà quelles allaient être les différentes étapes entre guillemets qui vous attendaient après, parce que ça fait quand même relativement peu de temps que vous êtes chacun sorti, vous vous y attendiez, vous saviez un peu de quoi les lendemains allaient être faits.
Vous avez prévenu. Hein.
Oui.
Bah, quand tu commences une école d'art, on te dit quand même, fais gaffe, tu vas pas dans le chemin le plus facile, tu fais pas du droit, tu fais pas de l'architecture, tu vas dans l'inconnu et potentiellement dans la solitude. Mais c'est bien.
Le saut dans le vide, il se fait surtout dans comment tu décides de vivre, quel choix tu vas faire en fait pour continuer à produire. Parce que faire de l'art, c'est un coût. Et suivant l'économie de ton travail, il y a des artistes qui utilisent rien du tout pour produire, mais ou qui ne produisent rien d'ailleurs. Mais c'est tout ça, c'est comment arriver à dealer, à trouver du temps pour à la fois en fait trouver de l'argent, trouver un lieu pour produire, parce qu'une école d'art c'est magique, c'est des pôles pour produire du matériel incroyable, c'est aussi 5 ans d'autarcie où effectivement on est entre nous, et la seule chose dont on a à penser régulièrement c'est nous, notre travail, c'est l'art en général. Et du coup, comment ensuite, une fois que t'es parachuté dans le monde en fait qui s'est pas arrêté, comment toi tu deals avec celui-ci pour continuer à produire et pas t'arrêter aussi, parce que en fait t'as pas d'exposition ou t'as pas de publication, et du coup est-ce que tu continues à produire ou pas, ce sont des questions voilà, en fait c'est plutôt trouver une force de travail, une énergie, et c'est pour ça que la rencontre avec les autres artistes, c'est pour ça que les ateliers collectifs et la collectivité en général effectivement est une seconde école, c'est l'après quoi.
On va continuer ces discussions, mais on se retrouve juste après ça.
l'instant, c'était Apocalypse de Cigarette After Sex. Vous écoutez toujours Radio Camping.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Nous sommes toujours en plateau en compagnie de Carmen Blin, responsable de la coordination de Jeunes Créations, et donc les artistes exposés lors de cette 67e édition de Jeunes Créations, Guillaume Gahanin, Quentin Spaun, Margot Pietri, Clara Citron, Thomas Labouic, et Audrey Glaise. Donc rebonjour à tous, on ne s'est pas quitté très longtemps, et il est désormais temps pour nous de peut-être de rentrer un peu plus dans le détail de vos pratiques. Alors vous êtes nombreux et je vais essayer de vous laisser le plus de paroles possible pour nous parler de votre travail, de vos approches. Mais peut-être un premier exercice que je vous propose, c'est un petit tour de table. Et comme on est à la radio et qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas vu l'exposition, essayez de nous décrire votre œuvre en une minute, voilà, en quelques mots, de la décrire radiophoniquement pour essayer de la rendre présente à nos auditeurs qui nous écoutent ici. Et je vais le faire par ordre aléatoire, comme ça vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Et je vais commencer par Clara Citron. Son titre déjà.
Alors voilà, le titre c'est Est-ce que tu entends des voix seulement lorsqu'on me parle ? Donc c'est une sorte d'installation de plaques de plexiglas superposées les unes aux autres qui sont gravées à la pointe sèche et ancrées. Non imprimé, donc évidemment. Donc ça peut s'apparenter à de la gravure, à du dessin ou à de la peinture, un peu comme on veut. Et j'ai travaillé sur les clichés féminins en mettant en scène des personnages, des groupes de personnages qui se font la guerre, qui sont les mères, les filles, les épouses, les amantes, les putains et les saintes. Et qui sont la guerre pour avoir la primauté sur, dans le devenir d'une jeune femme. Voilà, c'est toujours mon travail est à en fait, je me joue un peu de ces clichés. Je me revendique pas du tout comme une artiste féministe. J'ai pas envie de dire au contraire, ça va être mal interprété, mais. C'est pas voilà, je suis féministe comme il faut l'être, voilà. ça doit plutôt prêter à sourire mes dessins. Il faut se perdre dedans, il faut interpréter comme on veut. Voilà, c'est un peu vague, mais.
Thomas Labouic, c'est à votre tour de décrire votre œuvre radiophoniquement.
Alors en fait, donc c'est dans un espace, il y a trois éléments. Donc c'est de la vidéo, donc elle est diffusée avec des écrans, à l'aide d'écrans. Donc il y a une première table où dessus il y a des objets, donc comme une valise ordinateur, une sorte de valise un peu militaire. En fait, l'ordinateur est un ordinateur qui diffuse un film, par exemple. Il y a des petits éléments de laboratoire, un microscope, voilà, il y a plein de petites choses à découvrir. Ensuite, il y a une télévision avec une programmation des trois derniers films que j'ai réalisés. Et puis, voilà, sur le côté droit, on va dire, quand on arrive dans l'espace, on la voit assez de loin. C'est une installation multi-écran, six écrans type tour de contrôle, quoi, ou centre d'opération avec un opérateur qui surveillerait des flux vidéo. Donc voilà. Et donc du coup, l'idée c'était d'essayer de montrer un maximum de choses que j'ai pu produire qui se connectent entre elles en fait, créer une sorte de réseau en fait entre les différents projets où forcément mes thématiques les traversent en fait, et créer une sorte de nœud relais pour Jeunes Créations. Et donc il y a pas mal de choses à voir autour de ces questions d'outils de communication, donc que ce soit la vidéo, le streaming, la diffusion, des éléments radio aussi. Je fais pas mal de radio pirate. Je construis mes instruments, je construis mes antennes, je fabrique des petites radios mobiles, voilà, un peu comme dans les années 80.
On est dans le lieu idéal pour en parler.
Voilà. Et alors, voilà, donc je pense que je vais passer la parole.
Margot Pietri.
Oui. Alors la pièce s'appelle Le prêteur, son ombre. C'est un ensemble de sculptures que j'aime considérer et plutôt à imaginer comme un tableau. Donc au mur, on y voit une peinture qui est de la fibre de verre résinée sur laquelle est dessinée une main bleue qui croise les doigts. Et elle est soutenue par une attache qui est un étau fabriqué en acier. Au sol, il y a une sculpture qui de petits pieds qui rappelle les sculptures antiques où il reste, enfin les sculptures antiques ou ce qu'on peut souvent voir en Asie où le seul trace de la sculpture reste juste les pieds. Et sur ses pieds repose un outil qui est une sorte d'hybridation entre un pied à coulisse qui sert à mesurer les diamètres et un serre-joint. Et entre ces deux pièces, il y a une louche. Et cette louche, que j'aime appeler la boussole, est comme une sorte d'indicateur entre les deux et potentiellement l'objet du prêt entre le prêteur, son ombre. Et j'aime à penser que c'est la virgule dans le titre. Et du coup, l'ensemble crée une sorte d'instrument de mesure où les mesures sont altérées et où les outils qui ont perdu d'une certaine manière leur fonctionnalité soutiennent à la fois le corps, mais le corps est absent. Enfin, il y a un jeu de dualité qui s'opère comme ça.
Quentin Spohn.
Alors moi c'est
une minute, attention.
Comment?
J'ai dit une minute attention.
Oui, alors je vais faire vite. Donc c'est un triptyque. Alors justement j'étais avec un artiste, Oscar, on discutait, on savait pas si c'était un triptyque ou pas. C'est trois tableaux mis bout à bout, donc dessinés à la pierre noire. C'est assez confus. Alors moi-même des fois je me perds un petit peu dans ces tableaux en fait parce qu'il y a pas une certaine profusion. Il y a des espèces de Justin Bieber qui volent et tout en fait qui ramènent des sacs plastiques remplis de bouffe. C'est assez affreux.
On enjoint nos auditeurs à essayer de se l'imaginer.
Vraiment. Ouais non ça. Il y a des jeunes enfants avec des casques de réalité virtuelle qui sont un peu perdus, paumés. Ils n'ont pas leurs parents qui sont là. Et en gros c'est un peu voilà, j'ai eu tendance à rajouter plein de choses sur ces tableaux. C'est à découvrir, il faut les voir, c'est assez incroyable.
Ouais. Audrey Glaise.
Moi c'est une installation qui est en fait et parle beaucoup au final, je m'en aperçois aussi en la voyant installée, réalisée, de mon processus, même de l'ADN, même de mon travail qui m'a amené jusqu'à ici, jusqu'à cette pièce-là. Parce que moi, je suis surtout plutôt issue de la performance et de la vidéo qui tend petit à petit à perdre un peu ses images et à devenir de la vidéo texte. Et là, j'ai vraiment pensé contextuellement dans cet espace-là, une sorte de proto-espace hein, qui serait pensé dès lors qu'on prend une image 2D, qu'on essaie un peu de la dédoubler, comme pour créer une sorte de couloir entre deux paravents. Et le paravent, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse et que j'essaie de développer cette année. Les paravents en zigzag, c'est vraiment la limite entre l'image 2D et le début déjà du volume et de la forme dans l'espace. Et donc là, voilà, j'ai vraiment pensé une sorte d'espace qui se situe entre le chantier et la ruine, hein, qui a vraiment une sorte d'anachronie et qui est aussi composé d'éléments sculpturaux, de bouteilles en béton, de structures en métal, en acier. Je me suis amusée en fait à écrire le mouvement sur tous ces matériaux, vraiment penser l'espace comme une performeuse qui dessine et qui écrit, que ce soit les silhouettes qui se trouvent être sur les panneaux en tissu ou que ce soit sur les structures en métal, tout contient la trace du geste et du moment qui a généré la mise au réel comme ça de ces idées. Donc voilà.
Guillaume Guéhanan.
Alors, moi, je projette un film qui s'appelle « Risque d'atmosphère explosive », qui est composé d'une trentaine de chapitres. C'est un film qui s'intéresse à un lieu que j'ai beaucoup côtoyé. Et en fait, sur ce lieu, il se passait toujours avec mes amis des choses assez étonnantes, étranges, des choses bizarres, des déambulations, des découvertes de lieux, de vestiges, de ruines. Et il y a un moment où j'ai tout simplement commencé à filmer tous ces moments. C'est-à-dire à prendre sur le vif des images et des sons de toute cette vie qu'il y avait devant l'objectif. Et donc j'ai commencé à me placer à une multitude d'angles différents avec ma caméra et mon micro pour réaliser ce film. C'est un film qui se déroule donc dans une campagne qui est en transformation, dans un univers rural qui s'est modernisé, qui s'est industrialisé. C'est une agriculture qui s'est transformée au fur et à mesure en une sorte d'immense chantier d'extraction du sable. Et donc sur ce film qui s'est filmé pendant des années, au fur et à mesure le lieu se métamorphose et des structures en acier, des raffineries et des montagnes de gravats, de silex et de sable apparaissent. Et donc c'est tous ces instants de vie, de jeu, de baignade et de discussion rentrent en relation avec justement ce paysage changeant. Et voilà.
Eh ben merci à tous. Alors Carmen Plein, vous vouliez rajouter?
Ouais, j'aurais juste voulu rajouter. En fait, on n'a pas présenté Félix Ramon, qui est ici aussi avec nous, qui est caché derrière. Et juste, j'aurais bien aimé que tu présentes ta pièce aussi, étant donné qu'on fait un tour de table.
Ouais, juste, ma pièce, c'est en deux mots, c'est des castors qui essayent de construire, quelque chose. Ils savent pas trop ce que c'est, mais dans l'idée, en fin de compte, c'est au-delà d'essayer de construire quelque chose. En fait, c'est d'essayer de vivre ensemble. Voilà, il se pose cette question de comment vivre ensemble.
Alors peut-être un petit mot pour essayer de faire la convergence de tout ce que vous venez de nous dire sur vos pièces, sur vos œuvres. Très manifestement, vous mobilisez des médiums différents, vous venez de parcours différents, vous avez bien évidemment des pratiques différentes. En quoi est-ce que la technique que vous utilisez, les dispositifs qui sont les vôtres au croisement justement de tous ces médiums, en quoi est-ce que ces dispositifs vous permettent d'articuler un rapport entre le réel et la fiction qui est quand même assez différent, mais en même temps qui est assez présent et assez fort, je trouve, dans chacune de vos pièces, une sorte de tension entre récit imaginaire, récit fictif, récit documentaire, ou en tout cas récit réel. Comment est-ce que vous ressentez cette question du rapport au dispositif et du dispositif fictionnel ou imaginaire? Je ne sais pas si ma question est claire, mais qui veut commencer? Peut-être Clara Citron, Quentin Spawn? Non, Clara Citron.
Je pense que de toute façon, une œuvre d'art, c'est un peu tout ce que tu viens de dire.
Certes.
Donc je vois
ça. C'est du coup, vous avez tous quelque chose
moi,
à dire.
Enfin, j'allais dire la question n'est pas claire et en même temps, elle est extrêmement claire parce que, enfin, toute cette question-là, c'est ce qui fait déjà le dispositif qui se pose. Ouais. En tout cas, le mien se pose clairement la question
dans tout,
comment on
pense,
fait la mise au réel. Et je pense que c'est le cas pour toi aussi.
Ouais.
Alors plutôt, en quoi vos œuvres correspondent à cette définition à la fois très vague et très générale, et du coup dans cette question de l'articulation entre réel et entre la recherche par rapport à la fiction, est-ce que c'est quelque chose qui vous a travaillé pour certains d'entre vous ou absolument pas, Quentin Spawn?
Bah, en fait, par exemple, en ce qui me concerne, j'aime bien partir du réel, en fait, m'inspirer de mon rapport au monde. Enfin, mon inspiration vient directement de là, en fait, de comment je peux percevoir la société. Et après, c'est ce qui m'intéresse au niveau de la pratique artistique, c'est comment, en fait, à partir notamment du médium du dessin, je vais pouvoir développer une espèce d'univers fictionnel, mais qui aurait trait en fait au réel, mais ça serait comme un petit peu dans le cadre d'une utopie ou dystopie, une espèce de récit inspiré de la réalité, mais après qui pourrait prendre dans le cadre de la dystopie une dimension un peu cauchemardesque. Voilà, mais c'est cette possibilité de développer des fictions. Alors moi, en l'occurrence, c'est du dessin, mais dans d'autres médiums, c'est aussi possible.
Alors, Guillaume Guéhanin, Thomas Labouic, peut-être que justement vous pourriez vous poser de l'autre côté de l'éventail, est-ce que vous accepteriez le terme de documentaire pour qualifier vos travaux respectifs?
La forme du documentaire, elle traverse du coup ce qui me nourrit dans mes recherches forcément, Et pour ma part, en fait, moi, c'est vraiment cette question de technologie et un rapport un peu politique, évidemment, qui est dans mon travers sur ces systèmes d'autorité numérique, en fait. Une sorte de structure qui contiennent la mémoire ou qui viennent surveiller, une sorte d'œil, du coup, omniscient, qui nous surveille partout à travers nos ordinateurs, à travers les systèmes de caméras de surveillance à l'extérieur, etc. Donc, du coup, moi, mon idée, c'est de, à partir de cet outil-là, essayer de. Alors déjà de montrer les failles ou d'en trouver et de pouvoir à l'intérieur et avec ces outils injecter de la fiction en fait. Et du coup l'outil devient un peu autoritaire, tout doucement se met en branle et il y a une limite qui apparaît et qui nous permet d'aller plus loin quoi. Voilà.
Guillaume Gannon.
Alors je pense qu'il y a pas vraiment de catégorie. À mettre sur un film. Je pense que c'est aussi un film, en tout cas, je pense que c'est aussi bien, c'est une multitude de choses. C'est aussi, c'est plein de choses à la fois qui cohabitent et c'est là. Et en fait, dire d'un film que c'est du cinéma expérimental, de l'animation, du documentaire ou une fiction avec un trépied bien posé ou. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, le cinéma, c'est un tout, c'est une forme multiple et qui doit prendre des risques, qui se remet en question tous les jours. Et je pense que c'est par là qu'il répond le mieux, en fait, à l'énergie, à la vitesse, à la loufoquerie des situations. Et par exemple, dans Risque d'atmosphère explosive, c'est un film qui s'intéresse à un lieu, et pour moi un lieu, voilà, il va raconter des histoires, il va y avoir des personnages, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, et ensuite c'est là où juste les choses se construisent, et c'est en connaissant ce lieu avec du temps, en prenant son temps, c'est aussi ça, c'est prendre son temps, et ben qu'il y a des choses qui se produisent et que l'ordinaire, l'extraordinaire, la magie, l'énergie apparaissent tout simplement et voilà donc il n'y a plus réellement pour moi de catégories précises quoi.
Il faut sortir des étiquettes.
Tout est complètement hybride quoi.
Audrey Glaize, cette question, je crois, de la magie vous faisait sourire. Est-ce que vous voulez rebondir, je crois.
Oui, mais enfin c'est simplement ça, c'est que en fait, si évidemment on s'extrait de ce rapport dramatique à la création, à la difficulté de trouver le support, le médium, enfin tout ce qui est de l'ordre de la concrétisation, mais il y a un rapport complètement magique aussi à arriver quand même à s'exprimer, à projeter des lieux fictionnels, que ce soit via la vidéo, comme je disais tout à l'heure, des vidéos même sans images, où on est juste dans la didascalie, dans la description, ou par l'évocation, enfin, tous les médiums de toute façon. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment où il y a un moment où ça prend, et ça y est, c'est ce seuil-là qui est intéressant, et la réserve, elle est intéressante aussi de pas terminer, justement, ou de pas chercher à trop dire aussi, mais d'être un peu sur ce fil de je fais cette mise au réel de l'idée, de la projection imaginaire. C'est comme si j'allais vous ramener un objet de mon imaginaire et je vais le mettre au réel pour vous le donner à voir. Il va être là, mais il y a quelque chose de l'ordre de la translation de l'idée au matériau qui est magique.
Marco Pietri.
Oui, bah pour ma part, j'aime pas faire de clivage entre réel et fiction, parce que dans le monde dans lequel on vit, où on est, l'expérience, elle est autant de l'image, de l'écran depuis qu'on est né qu'une expérience émotive ou sensorielle. Du coup, faire une œuvre d'art, c'est faire du réel. Et c'est faire du réel, effectivement, qui peut raconter des histoires, mais pour moi, elles sont autant fictionnelles qu'une histoire réelle, ou le réel est autant fictionnel que. Enfin, tout dépend du point de vue qu'on adopte. Et du coup, c'est effectivement plutôt, je préfère parler d'imaginaire, comme tu dis, que de fiction. Parce que je trouve que c'est un mot qu'on utilise un peu trop maintenant pour. Comme le réel ou la réalité, qui sont assez complexes et qui veulent plus dire grand-chose.
Vous vouliez répondre ?
De toutes les manières, toutes les images qu'on reçoit dans la société, dans le monde, elles passent à travers nous, elles passent à travers le sang, à travers les câbles qui sont là-haut, là. Et puis ça donne quelque chose, que ce soit de la peinture, de la musique, du cinéma. Mais vu qu'il y a une vision des choses qui est personnelle. Donc c'est là où on ne peut pas du tout parler de clivage.
Alors notre entretien s'achève déjà presque bientôt. J'aurais une dernière question assez rapide pour vous. Tout simplement, l'exposition se termine demain. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après-demain ? Non, il y avait une blague qu'on m'avait annoncée, qu'on m'avait promise et qui n'aura pas lieu. Donc après-demain, il y aura le démontage. Après-après-demain, donc.
Vas-y.
Qu'est-ce qui vous attend, voilà, quelles sont vos prochaines actualités ? Qu'est-ce qui va se passer bientôt pour vous ?
Il y a les prix, hein. Il y a plein de gens qui ont des prix, ils vont faire plein d'expositions. Enfin, parce que là, en fin de compte, là, il y a 50 artistes dans un lieu. C'est un peu un trailer, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de place. Un artiste, on désire tous faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus avoir plus de place, plus d'argent, et voilà. Et donc, avec Jeune Création, on a réussi à avoir tout ça.
Ouais, donc on vous encourage, on espère que le trailer vous aura donné envie de voir le film, c'est ça, et vous encouragera à aller voir la suite. Alors qu'est-ce qu'il y a des choses plus concrètement qui vous attendent bientôt, des voyages, des bourses, vous avez tous eu un prix ici. Bon, vous avez, mais en tout cas, non, c'était plouf. Ça n'a pas marché, mais on espère que plein de choses vous attendent ensuite.
De toute façon, il y aura tous les artistes qui vont décider de prendre part à la vie de l'association, de s'impliquer pour monter d'autres expositions au sein de la galerie, etc. Donc, c'est pas fini.
C'était la prochaine question que j'allais vous poser, vu que tous les membres de Jeune Création, aujourd'hui comité d'organisation de sélection, sont des anciens de Jeune Création. Quels sont vos futurs désirs, justement, pour la suite? Comment est-ce que vous avez envie de continuer votre présence à Jeune Création? Quentin Spahn.
Déjà, ça peut être le fait de, par exemple, ou bien participer au jury pour sélectionner des dossiers, ou bien venir donner un coup de main si on est disponible pour le montage, pour la médiation dans les mois à venir et tout, quoi. En fait, mais je pense qu'on, enfin, tous ici, on est dans l'idée, enfin, peut-être qu'on a tous envie aussi un petit peu de participer avec nos moyens et tous, un minimum pour les nouvelles éditions, enfin, les futures éditions.
On a hâte de vous retrouver l'année prochaine. Cette émission touche presque à sa fin, donc merci beaucoup à tous.
Merci.
Est-ce que vous
merci.
Auriez un mot d'au revoir si l'un d'entre vous devait juste donner un conseil à un futur jeune artiste, lequel serait-ce ? Celui qui veut... Audrey Glaise.
Accroche-toi.
Accroche-toi.
Accroche ta ceinture.
Donc accrochez votre ceinture, mais ouais. Vous pouvez rester au contact, à l'écoute de Radio Campus Paris pour accrocher votre ceinture tout l'été. Donc merci à tous d'être venus sur ce plateau. Carmen Blin, Margot Pietri, Clara Citron, Quentin Spahn, Thomas Labouig, Guillaume Guéhenin et Audrey Glaise. Merci également à Hugo Lin et Adèle pour la technique et à Elsa pour la coordination de l'émission. Radio Camping, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. Même heure, même onde, et profitez bien du soleil à l'écoute de Radio Campus Paris tout l'été.
Merci.